Archéologie naturelle par le Père Philippe à Saint-Joseph le 25 juin 85.
C'est le dernier cours de théologie naturelle. Alors, c'est pour vous montrer ce qu'on a fait, c'est le point de départ. Il faudrait continuer, on verra si on a le temps l'année prochaine, continuer en voyant toutes les manières d'exister de Dieu. Nous avons commencé par les grands attributs divins, simplicité, perfection. Alors après, il faut regarder le point de vue de la vie, c'est-à-dire l'intelligence et l'amour, puis la toute-puissance, vous voyez, tous les attributs. À ce point de vue-là, ce que nous donne saint Thomas dans la somme théologique, c'est très très précieux, c'est une chose merveilleuse. Alors, il ne s'agit pas de copier, il s'agit de le comprendre. Et je crois que nous devons reprendre tout cela pour comprendre ce jugement de sagesse à l'égard de l'homme dans toutes ses dimensions. Et c'est la seule manière pour nous de répondre à l'ontologisme. L'athéisme répond à l'ontologisme par un anti-ontologisme, et nous répondons à l'ontologisme par un méta-ontologisme. Vous voyez la différence. Je dis ça, c'est parce qu'on est là au cœur de tout le problème d'aujourd'hui. Si on veut comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans la philosophie contemporaine, et c'est net, les sensibilités sont comme ça. Quelqu'un comme Étienne Borne est très significatif, parce qu'il fait partie de ces intellectuels chrétiens, catholiques, et on sait très bien la sensibilité qu'ils ont. Ils sont très très pris par saint Anselme. Leur maître à penser, c'est saint Anselme. C'est ça qu'ils aiment. Saint Thomas, ils le rejettent, de façon très très nette. Ils ont très peur de saint Thomas. Je comprends très bien, parce que saint Thomas, c'est un sérum de vérité, dû à encaisser. C'est pas commode, saint Thomas. Saint Anselme, ça va beaucoup mieux. Et saint Anselme est à la source de toutes les ontologies, la manière dont ils comprennent. Il y a toutes les formes d'ontologisme qui ont donné naissance à l'athéisme, ils ne voient pas cela. Et ils restent dans l'ontologisme. Rester dans l'ontologisme, c'est se mettre dans une position d'être incapable de répondre aux athéistes contemporains. Parce que l'ontologisme ne regarde pas l'homme au point de vue philosophique. C'est une fausse théologie, parce que c'est une théologie laïcisée. Alors qu'on doit regarder l'homme dans un très grand réalisme et comprendre l'homme dans l'analyse philosophique et comprendre l'homme dans un regard de sagesse théologique. Vous voyez, ce double regard de l'homme, c'est très important, ce double regard de l'homme que toute la philosophie donne. La philosophie nous donne ce premier regard de l'homme dans l'analyse de la philosophie, toutes les parties de la philosophie. C'est toujours pour essayer de comprendre l'homme. Une fois qu'on découvre l'existence d'un être premier et qu'on essaie de comprendre le lien entre l'être premier et Dieu, il y a cette vision de sagesse qui nous permet de reprendre tout dans une nouvelle lumière existentielle. Pour employer le mot heideggerien, ça fait bien. C'est-à-dire de comprendre la manière dont l'être participait se structure. La manière dont l'être participé, nous sommes un être participé, hein. Nous l'affirmons, j'en ai pas l'expérience, mais je sais que je suis un être participé. Et je vois que cet être participé, dans la lumière des manières d'exister de Dieu, c'est un être composé, c'est un être imparfait, c'est un être bon, mais d'une bonté limitée. C'est un être limité, qui a ses frontières. Nous avons des frontières. C'est pour ça qu'il existe des clôtures. Enfin, c'est reconnaître les frontières. Supprimer les frontières, c'est très très bien, mais c'est très très dangereux aussi, parce qu'alors souvent il ne reste plus rien du tout. Nous sommes des êtres qui sommes contingents, essentiellement contingents. Nous sommes des êtres localisés, et ainsi de suite, dans la lumière même des attributs de Dieu. Alors, nous l'avons fait au début, nous avons repris un peu, mais vous savez bien, c'est le premier moment. Il faudrait continuer. Nous avons essayé de temps en temps de voir combien c'était important, cette lumière. Et je crois que c'est peut-être ça, vous voyez, qui donne, au fond, en dernier lieu, le sens de la philosophie. Je crois que si on est chrétien, on ne peut pas ne pas être impressionné par la grandeur du jugement de sagesse. La noblesse du jugement de sagesse sur l'homme. De regarder l'homme dans la lumière même de l'être premier. Et ceci me fait comprendre la signification dernière de la philosophie. Si je fais de la philosophie, c'est pour pouvoir contempler et avoir ce jugement de sagesse. Alors, c'est dans cette lumière-là que nous devrions regarder les limites d'une psychologie, les limites d'une sociologie. On ne l'a pas fait, on pourrait le faire, en regardant le point de vue de l'intelligence de Dieu, en regardant le point de vue de l'amour de Dieu. Alors, c'est intéressant de voir ce que nous avons fait, c'est déjà intéressant, et ce qui reste à faire. Comme ça, on ne peut pas boucler sa valise en disant, maintenant, ça y est, j'ai terminé le jugement de sagesse, j'ai tout compris. Non, non, on reprend tout le temps. Et vous savez bien, c'est le prof de la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de système. Donc, plus on avance, plus on a envie de reprendre le point de départ. J'espère que vous ressentez tous ça. Plus on avance, plus on a envie de reprendre le point de départ. Tout le temps reprendre le point de départ. Reprendre tout à son origine. Et c'est vrai, c'est le propre de la philosophie. Ce qui permet du reste de rester dans l'humilité. Parce que quand on a un système, on n'est pas du tout dans l'humilité. Alors on est dans une attitude de celui qui domine. On ne domine jamais en philosophie. On est toujours dans un état d'attente. Alors, avant de continuer, je réponds tout de suite à cette question. Pouvez-vous expliquer comment la sagesse peut assumer les différentes parties de la philosophie ? Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est très bien, je vais expliquer un peu plus. Ceci pour mieux comprendre comment la théologie se sert des différentes parties de la philosophie assumées par la sagesse. La philosophie première assume toutes les parties de la philosophie, vous voyez bien comment, par rapport à la découverte de l'existence de Dieu. Je vais faire ça très rapidement. Toute la philosophie est tendue vers la découverte de l'être premier. Ça, j'espère que vous commencez à le deviner. Primo cadit in intellectus ens, et ultimo cadit, l'être premier. Alors vous avez le petit être ici. Le petit être. C'est vous le petit être. Je suis. Là, nous donnons la main à Descartes. L'abandonnons pas, Descartes. Faut pas. On le critique suffisamment pour ne pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner. Je suis. Nous expérimentons notre jugement d'existence, ceci est. Pourtant, nous avons tout comme ça. Et nous découvrons l'être premier. L'ulti-jugement d'existence. L'être premier existe. Puis nous essayons de comprendre la manière dont existe cet être premier. C'est quand même très important, la manière dont existe cet être premier. Pour ensuite, dans cette manière d'exister, dans un jugement de sagesse, regardez l'homme. Ici, nous avons les parties de la philosophie, les cinq parties de la philosophie avant la philosophie première. Cinq parties, n'oublions pas. Si nous étions stoïciens, nous dirions les cinq parties, c'est les cinq doigts de la main, et la paume, c'est la métaphysique. Hein. C'est par lequel les cinq sont tenus. Vous avez les cinq, parce que c'est amusant de voir le chiffre 5 qui vient ici pour les cinq parties de la philosophie. Trois pratiques, deux spéculatives, et la dernière qui va faire nécessairement la synthèse, ça ne peut pas être autrement. La philosophie première est d'abord spéculative, puis elle est d'une façon ultime, pratique, parce qu'elle est sagesse. Elle fait la synthèse.
Ça fait extraordinaire, parce que la philosophie première a deux parties, une partie spéculative et une partie contemplative qui pratique.
Le jugement de sagesse est éminemment pratique.
Il n'y a rien de plus pratique que de considérer que je suis un être participé.
Il y a beaucoup de gaffes que je ne ferais pas si j'avais toujours ce sens que je suis un être participé, que je ne peux pas tout faire. Que je suis un être localisé, que je suis un être limité, qui a des frontières, et ainsi de suite. De comprendre cela. Alors, les cinq parties de la philosophie sont assumées par la philosophie première. Non, exactement. Les cinq parties de la philosophie sont dépassées par la philosophie première dans son analyse. Et sont assumées au niveau de la sagesse.
C'est important de comprendre ça. C'est pas la partie analytique de la philosophie qui assume le reste. Jamais. Une analyse n'assume rien. Il suffit d'être un peu intelligent pour comprendre que l'analyse n'assume rien. Le propre de l'analyse, c'est d'analyser et de pas assumer. Si vous voulez analyser et assumer, vous faites un cocktail invraisemblable. Il faut accepter que notre intelligence est conditionnée par l'analyse. Quand vous voulez connaître quelque chose, vous êtes obligé de passer par la phase d'analyse. Impossible autrement. C'est la phase d'information pour une analyse. Et l'analyse, pour nous, se fait au niveau philosophique par le point de vue inductif de la découverte des principes propres. Bon, là, vous n'assumez rien. Vous analysez. Vous analysez ce qui est en tant qu'il est. Vous y a l'acte. C'est ça que vous essayez d'analyser.
Tandis qu'au niveau de la sagesse,
c'est le propre de la sagesse. La sagesse peut assumer. Ça, ce serait très intéressant de comprendre pourquoi la sagesse peut assumer. La sagesse peut assumer parce qu'elle touche l'être premier qui est source. Donc, il est normal que tout ce que j'ai découvert dans les cinq premières parties de la philosophie, je peux les assumer dans l'être premier. Et par là, je peux découvrir les modalités particulières de l'être premier. Alors, je regarde, je vais simplement, je ne peux pas tout faire, c'est impossible de tout faire ici, mais simplement comprendre comment j'assume. Simplicité, comment ça le connaître ? Simplicité, perfection, bonté. Ici, j'assume, en faisant ça, j'assume l'analyse de la philosophie première. Simplicité. Je ne peux parler de la simplicité que si j'ai saisi l'ousia. Je ne peux parler de la perfection et de la bonté que si j'ai saisi d'être en bas. Ensuite, infini. Immensité, immutabilité, éternité. Je ne peux parler, ça ici, j'assume la philosophie de la nature. Très curieux, les deux aspects premiers que j'assume, la philosophie première, c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus proche, puis la philosophie de la nature, c'est ce qu'il y a de plus éloigné. L'être en devenir, hein, quand j'essaie de comprendre ce que c'est que l'être en devenir, je saisis qu'il est limité, qu'il est localisé, qu'il est dans le mouvement et qu'il est dans le temps. L'être en devenir, il est fini. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'Aristote dit ça. C'est indépendamment d'Aristote, mais il a saisi que quand je regarde l'être physique, je dis il est fini, il est localisé, il est immobile et il est dans le temps. Voilà les dimensions de l'être physique, l'être physique, qui est étudié par la philosophie de la géologie. Eh bien, Tout ce que l'être, tout ce que j'étudie en être, dans la philosophie de la nature, je le redécouvre dans l'être premier. Par la négation, non finie, non localisée, non mobile, non dans le temps. Et j'ai ces différents attributs. Et tout se termine par le point de vue de l'unité. L'unité, c'est la propriété de l'être, l'acolyte, qui suit l'unité, est aussi bien en philosophie première qu'en philosophie de la nature. Et c'est ce qui termine. Ensuite, une fois que vous voyez bien comment j'assume la philosophie de la nature. Les deux extrêmes de la philosophie, c'est la philosophie de la nature, la philosophie de l'être. La philosophie première, puisque c'est l'être et le devenir. C'est ce qu'il y a de plus spéculatif. Ce qu'il y a de plus spéculatif en philosophie, c'est la philosophie première, c'est-à-dire l'analyse de ce qui est, et la philosophie première. C'est les deux aspects les plus spéculatifs. Déjà, quand je suis en philosophie du vivant, c'est un tout petit peu moins spéculatif. C'est très curieux. Parce que la philosophie du vivant présuppose la philosophie de l'être et la philosophie du devenir. Ensuite, j'essaie de comprendre la manière d'exister du vivant premier. L'être premier, il est vivant. C'est le vivant. Mais un vivant qui ne vit pas de vie biologique. Pour bien comprendre qu'il ne vit pas de vie biologique, j'assume toute la philosophie du vivant. Or, la philosophie du vivant commence par la vie biologique. La vie biologique ne me dit rien sur Dieu. Dieu ne digère pas. C'est le prophète Élie qui dit à propos des idoles, vous savez, pas de mal, mais peut-être que vos dieux sont en train de digérer, et après avoir pris un grand banquet, ils dorment. Enfin, donc, on voit très bien, mais ça c'est les idoles. Les idoles dorment et digèrent. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de Dieu, non. La vie biologique ne nous dit rien de Dieu. La vie sensible ne nous dit rien de Dieu. La vie passionnelle ne nous dit rien de Dieu. Ah, c'est la vie de l'esprit. Alors, c'est l'esprit. L'intelligence. Et les vivants. Intelligence. Vous voyez comment j'assume la philosophie du vivant. La philosophie du vivant est assumée, parce que c'est la philosophie du premier. Il y a tout un aspect négatif. Pas de vie biologique en Dieu, parce qu'il n'y a pas d'union avec le corps. Alors je comprends mieux pourquoi le corps existe, mais comment il faut dépasser le corps. Le corps n'est jamais dernier. Point de vue philosophique, hein. Point de vue sportif, oui, pas au point de vue philosophique. Le corps n'est jamais premier au point de vue philosophique. Il est premier pour la compétition sportive. Ça, c'est évident. C'est pas le plus intelligent qui remporte le premier prix au niveau sportif. Normalement, pas toujours. Il y a des êtres très intelligents qui sont d'excellents sportifs. Heureusement pour le sport. N'est-ce pas ? Mais c'est pas toujours ce qui arrive. C'est deux choses différentes. C'est autre chose. Eh bien, Dieu n'est pas sportif. C'est quand même très dommage, mais c'est comme ça que vous. Tandis que les idoles sont sportives. Alors là, ce sera intéressant de voir comment les idoles sont sportives. Mais Dieu n'est pas sportif. Il est au-dessus. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas faire du sport, n'est-ce pas ? Parce que nous devons accepter notre conditionnement humain. Et nous faisons du sport pour maintenir la souplesse du conditionnement humain. On fait du sport, de la gymnastique pour maintenir ça. Comme on fait des actes d'obéissance pour maintenir la souplesse de l'esprit. C'est analogue. Les sportifs doivent être très obéissants. Parce que c'est le sport spirituel, l'obéissance. C'est analogue. Hein? Il y a des analogies comme ça qu'on doit essayer de comprendre. Alors, le point de vue de l'esprit, le point de vue de l'intelligence et de l'amour. Ensuite, qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez le point de vue de la toute-puissance de Dieu. Et voyez la béatitude. Bon, par le point de vue de la toute-puissance, qu'est-ce que vous assumez? Vous assumez la philosophie du Fatscherer. Par le point de vue de la bonté, vous assumez la philosophie éthique. Alors, la philosophie éthique est assumée au niveau de l'amour et au niveau du bonheur. Pour le niveau des vertus, Dieu n'est pas vertueux. Il est sage. Il y a la sagesse. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est humble. Ça fait toujours mal. D'une façon viscérale quand on dit que Dieu est humble. Mais non, c'est ramener Dieu à un aspect moral. L'humilité, c'est très très grand, mais Dieu n'est pas, il n'y a pas d'humilité en Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est humble. Au sens rigoureux, il ne faut pas le dire. Le Christ est humble dans son humanité. Et Dieu est au-delà des vertus. Dieu est au-delà des vertus. Toutes les vertus, alors au point de vue éthique, c'est pour comprendre la sagesse en Dieu. La sagesse, oui, elle existe en Dieu, ça c'est sûr. Elle existe en Dieu à cause de l'intelligence et de l'amour. L'au-delà, le dépassement de toutes les vertus. Et la philosophie du Fatscherer me fait comprendre comment en Dieu, il y a une toute-puissance. Dieu est le réalisateur par excellence. Il est l'artiste par excellence. Éthique. Donc vous assumez toutes les parties. Alors, il en reste qu'une, la politique. La politique, qu'est-ce qu'elle va me dire? Comment je vais assumer la politique au point de vue sagesse? Ah, c'est très curieux. La politique, c'est la philosophie, vous savez bien, la philosophie qui est la moins philosophique de toute la philosophie. C'est la petite dernière qui court toujours, on ne sait jamais très bien comment elle court. C'est très curieux, la philosophie. C'est vrai qu'au point de vue, elle n'a pas de principe nouveau. Il n'y a que le bien commun. Y a-t-il un bien commun en Dieu? La partie la plus philosophique de la politique, c'est le bien commun. Ça, c'est sûr. Y a-t-il un bien commun en Dieu? Non. On dira que la révélation va me révéler qu'en Dieu, il y a la Trinité. Et donc, s'il y a les trois, il faut nécessairement trois bien commun. Il y a un bien commun dans la très sainte Trinité. Eh bien, non, la très sainte Trinité n'est pas politique. Essayer quelquefois de faire une politique de la très sainte Trinité, alors de voir le tragique entre le Père et le Fils. Jung fait ça, vous voyez. Jung fait ce tragique entre le Père et le Fils. C'est très intéressant à lire pour voir pour bien comprendre les erreurs que ça peut faire. Dieu n'est pas une famille et il est éminemment famille. Quand on dit la famille de la très sainte Trinité, alors il y a le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Alors vous ne savez pas très bien comment il faut faire. Alors vous allez mettre le Père et le Saint-Esprit et puis le Fils derrière, n'est-ce pas? Il faut bien être une famille. Hein. Le Père, la Mère. Et alors la Mère, c'est plus l'Esprit Saint, c'est sûr. Et puis le Fils, c'est le Fils, quoi, c'est le Fils. Alors vous mettez évidemment le lien entre le Père et l'Esprit Saint et puis le Fils derrière, comme ça vous avez une trinité, une famille extraordinaire, et vous expliquez. Et vous expliquez la très sainte Trinité par le point de vue de la famille. Non, la très sainte Trinité est au-delà de la famille. Elle est au-delà de la politique parce qu'elle est une. Dieu est un. Et vous savez bien comment Aristote montre que si la politique cherche en premier lieu l'un, ça détruit la politique. Si dans la famille vous cherchez en premier lieu l'un, ça détruit la famille. C'est extraordinaire la critique d'Aristote par rapport à Platon sur l'unité. Aristote, en faisant ça, nous montre que Dieu n'est pas politique. Il ne savait pas. Et c'est très intéressant. Je ne peux pas mettre en Dieu de politique alors. Où est-ce que la politique va être assumée par la sagesse? C'est parce que Dieu est créateur, la toute-puissance. La création met en pleine lumière la toute-puissance de Dieu. Et la création va impliquer le point de vue du gouvernement. Alors, c'est à propos du gouvernement que je peux assumer le point de vue de la politique. Vous voyez, c'est pas par rapport à l'être premier de Dieu, non. Dieu est au-delà du gouvernement. La politique ne me dit rien de Dieu. Mais la politique est assumée pour que je comprenne la manière dont Dieu gouverne l'univers. Alors là, oui. Vous voyez, un petit tableau très simple qui résume tout. Les cinq parties de philosophie, on assume l'être premier. Et dans une vision de sagesse, la manière d'exister, d'être premier, ce qui est extraordinaire, ça, c'est quand même très très beau de voir ça, c'est que vous voyez dans saint Thomas, on n'avait qu'à regarder la prima pars, les attributs, la manière d'exister, d'être premier, et vous voyez tout ça. C'est pour ça que cette prima part, cette manière d'exister, d'être premier, est si importante. Elle me montre comment toute la philosophie est mobilisée par la sagesse. Et demande d'être mobilisée par la sagesse. Elle est assumée par la sagesse. Toutes les parties de la philosophie. Et il est évident que c'est la philosophie première qui est assumée en premier lieu. C'est la philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie de Fancheret, philosophie éthique. Et puis, philosophie du gouvernement, philosophie politique. Tout est donc assumé. Et toujours dans cette lumière, la vision de l'homme. Puisque c'est l'homme que je cherche. C'est la vision de l'homme. Comment Dieu a cette sollicitude vis-à-vis de cette créature qui est la dernière. Alors, je reprends pour terminer ce que nous avions dit la dernière fois, où nous étions restés la dernière fois. Un esprit, un être spirituel, un être qui implique une âme spirituelle, ne peut pas dépendre d'une cause seconde. L'esprit comme esprit ne dépend pas d'une cause seconde. Vous voyez, c'est peut-être ça qui est à l'origine de toutes les revendications. Toutes les revendications, c'est peut-être une espèce de nostalgie qu'on situe mal. Mais c'est peut-être ça, c'est qu'on sent très bien que l'être spirituel ne peut pas dépendre d'une cause seconde. Vous n'avez pas le droit de donner votre intelligence comme intelligence à une cause seconde. Vous allez dire, alors vous supprimez toute l'obéissance. Pas du tout. Dans l'obéissance, vous ne donnez pas votre intelligence à votre supérieur. Vous ne donnez pas votre intelligence. Vous acceptez de sacrifier votre petit imperium, votre petit jugement pratique, et pas votre intelligence comme telle. L'intelligence comme telle ne peut être offerte qu'à Dieu. Et ceci, c'est parce que justement, pour fonder ça, pour fonder cette affirmation, c'est que l'être spirituel ne peut pas avoir de cause seconde. L'être spirituel ne peut avoir comme dépendance, que la cause première. Noblesse oblige. Hein, je suis dépendant directement de Dieu dans mon esprit. Et complètement indépendant de tout le reste. Mais faisons attention, comme esprit. Hein, comme esprit, et uniquement comme esprit, pas au niveau de votre conditionnement. Alors la confusion du conditionnement et de la finalité, vous voyez, font justement les revendications. Parce que les revendications, c'est... Et au fond de la théologie de la libération, il y a la même chose. Et je crois que si on voulait répondre vraiment à la théologie de la libération, il faut regarder ça. C'est que l'esprit comme tel ne peut pas dépendre d'une cause seconde. C'est très beau, du reste, à y réfléchir. Alors, comment comprendre ça philosophiquement, métaphysiquement? Comment comprendre, dans une vision de sagesse, que l'esprit comme tel ne peut dépendre que de l'être premier. Comme esprit, hein, je souligne bien, comme esprit, l'esprit lié au corps, en tant qu'il est lié au corps, dépend des causes secondes. Nous avons tous eu des parents qui étaient causes secondes pour notre corps. Alors quand j'ai dit ça une fois à un parent, il m'a dit, « Oh, quand même, on est père plus que du corps !» Je dis, oui, vous êtes père du corps humain et donc de l'âme présente dans le corps, mais vous n'atteignez l'âme que par le corps. Et Dieu seul atteint directement l'âme. Et c'est pour ça que je dis bien que le conditionnement nous met dans la série de dépendances des causes secondes, et donc de tout l'atavisme, mais la finalité me fait toucher directement et immédiatement l'être premier. Vous voyez, si je ne fais pas de distinction entre conditionnement et finalité, je ne peux pas dire ça. Alors, ou j'ai une attitude de bon enfant, je dépends totalement de mes parents, et il faut honorer ses parents, et donc être bon enfant, c'est rester dépendant. Et donc il faut... Mes parents ne veulent pas que j'entre au couvent, je n'entre pas au couvent, mais il ne faut pas leur faire de la peine. Oui, alors il ne faut pas leur faire de la peine. Bon, je resterai... Alors quand ils mourront, ah, à ce moment-là, je ne sais pas, je mourrai en même temps. Par l'esprit, il avait une finalité autre que celle des parents. Et bien l'autre attitude, c'est l'inverse, c'est d'oublier que nous avons un conditionnement et de croire que nous sommes totalement indépendants de nos parents. Non, nous sommes dépendants d'un certain atavisme. Et que nous devons porter à assumer le plus possible. Et plus nous avançons, plus le conditionnement est porté par la finalité. Et la sainteté, c'est peut-être quand le conditionnement est totalement assumé par la finalité. Et tant qu'on est sur la terre, il y a toujours des petites bavures, parce que le conditionnement est lourd. Alors comment se fait-il que l'esprit ne peut pas dépendre d'une cause seconde ? C'est que l'esprit est relié directement à l'être. C'est, je crois, cela, la raison profonde, c'est que l'esprit est relié directement à l'être. On peut prendre une petite raison intermédiaire que saint Thomas aime bien prendre, qui est souvent d'ordre apologétique, qui revient à celle-là, hein. C'est de dire que l'esprit est capable de toucher l'universel. L'esprit crée l'universel. Et si l'esprit crée l'universel, l'esprit ne peut pas dépendre d'une réalité singulière. Parce que l'universel est au-dessus. Mais vous voyez, la très grande difficulté, c'est que l'universel est d'ordre de l'intentionnalité. C'est un être second, un être de raison. Alors, ce n'est pas très commode comme raisonnement. Mais c'est le raisonnement que les théologiens apprennent. Je crois qu'il faut, au point de vue philosophique,
aller plus loin et dire que l'esprit est dépendant de l'être, il est relatif directement à l'être. C'est parce que notre intelligence est directement relative à l'être et que notre volonté est capable d'atteindre une personne et la bonté d'une personne que nous découvrons que nous sommes affranchis de toute cause seconde. Parce que l'être ne dépend que de la cause première. Et tout ce qui est immédiatement relié à l'être dépend directement de la cause première. La cause première agit sur l'être, alors que les causes secondes agissent sur la forme. Et les causes secondes ne peuvent agir que sur la forme, parce qu'ils agissent toujours par mode de devenir. Or, ce qui est premier dans le devenir, c'est la forme, c'est pas l'être. C'est la forme. Et donc, si notre esprit dépendait d'une cause seconde, notre esprit serait entièrement saisi dans le devenir. Et notre esprit n'aurait plus de finalité, et notre esprit n'aurait plus la possibilité d'atteindre l'être. Dès que vous comprenez que l'intelligence humaine implique de saisir immédiatement l'être, primo cadit in initus ens, vous voyez comme cette affirmation de saint Thomas est importante, elle revient tout le temps, tout le temps. C'est parce que l'intelligence est capable d'atteindre directement l'être, c'est parce que ma volonté est capable d'atteindre le bien personnel, que je saisis que mon esprit, c'est-à-dire mon âme spirituelle, ne peut pas dépendre d'une cause seconde. C'est impossible. Si elle dépendait d'une cause seconde, elle serait en dépendance du devenir et elle serait enfermée dans une forme. Elle ne serait pas une réalité substantielle. L'esprit comme esprit, est une réalité substantielle. Et comme une réalité substantielle, il ne peut dépendre que de l'être premier. C'est ça qu'il faut, sur lequel il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de génération chez les esprits séparés de la matière. S'il existe des esprits séparés de la matière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anges ou les substances séparées, s'il existe des substances séparées, ces substances séparées ne peuvent pas être source l'une de l'autre. Elles ont une autonomie farouche, elles sont monastiques au sens le plus fort, tandis que nous ne sommes pas totalement monastiques. Tandis que là, elles sont totalement monastiques, parce qu'elles dépendent directement de Dieu, dans tout leur être. Et l'autre aspect, c'est que dépendant directement de Dieu dans tout leur être, elles ne sont pas source d'un autre être. Et elles ne peuvent pas être source d'un autre être. Par là, nous saisissons cette chose très très belle, que notre âme spirituelle est plus proche de Dieu que de nos propres parents. Notre âme spirituelle est plus proche. Nous ressemblons plus fondamentalement et radicalement à Dieu qu'à nos propres parents. Nous ressemblons à nos parents par l'ordre des dispositions corporelles, tout l'atavisme. Nous ne le refusons pas. C'est bien évident, il y a l'atavisme. Mais chacun d'entre nous dépendons de cet atavisme. Mais cette dépendance est une dépendance de l'ordre des dispositions. Elle n'est pas finale. Et nous avons tous la possibilité d'un choix personnel au-delà des dispositions. Évidemment, quand les dispositions sont particulièrement lourdes à porter, les maladies,
La maladie, c'est tout simplement, si vous voulez, c'est que la disposition devient une détermination. Je crois que ce serait ça la définition meilleure au point de vue philosophique de la maladie. C'est quand la disposition devient telle, vous voyez, on est dans une espèce de dornière tellement profonde qu'on n'arrive plus à dépasser. Donc ce n'est plus la disposition, ça devient une détermination. Ça nous détermine. Et parce que ça nous détermine, ça nous limite. Ça nous empêche d'avoir des ailes. Mais quand l'esprit est suffisamment fort et que nous sortons de la maladie, alors à ce moment-là, les déterminations redeviennent disposition. Et une disposition, c'est jamais ce qui détermine, c'est ce qui se prend toujours du côté de la matière, ça nous conditionne une disposition. La disposition nous conditionne mais ne nous détermine pas. Mais quand la disposition devient particulièrement lourde, elle risque toujours de nous déterminer. Et à ce moment-là, nous perdons notre finalité. Et c'est la cause matérielle qui l'emporte. Alors vous voyez comment nous pouvons, au plan philosophique, comprendre que l'homme, en tant qu'ayant une âme spirituelle, ne peut pas, dans son âme spirituelle, dépendre de causes secondes. Par le fait même, c'est tout le problème de la coopération de la cause seconde et du Créateur. Comment se fait par la procréation la coopération des causes secondes, le Père et la Mère, et le Créateur. L'action du Créateur nous échappe. Et par le fait même, d'une façon prudentielle, nous ne regardons que les causes secondes, en sachant très bien qu'il y a cette coopération avec la cause première. Je ne peux pas savoir à quel moment il y a cette intervention. Je ne peux pas le savoir d'une façon précise, d'une façon absolue. Je peux en voir les effets, oui. Et dès que je vois les effets, j'infère la cause. Mais je ne peux pas le savoir d'une façon absolue. Est-ce que c'est dès le premier moment de la conception, ou est-ce que c'est quelques moments après la conception, dès qu'il y a une petite organisation des premières cellules? C'est possible. On ne peut pas le savoir. Mais il y a une petite marge devant laquelle on est obligé de dire qu'on ne peut pas. Au point de vue philosophique, au point de vue purement philosophique. Au point de vue théologique, grâce au mystère de l'Immaculée Conception, je crois que nous pouvons l'affirmer. Mais dans la lumière du mystère de l'Immaculée Conception, puisqu'elle est immaculée dans sa conception. On ne dit pas après que les premières cellules soient venues. Elle est immaculée dans sa conception. Si elle est immaculée dans sa conception, il y a donc nécessairement l'âme spirituelle. Alors ça, je peux le dire dans la lumière de la théologie, mais pas dans la lumière philosophique. Dans la lumière philosophique, je peux dire tout semble indiquer que l'âme humaine est créée dès le premier moment de sa conception. Mais je ne peux pas. Il faut faire toujours attention à l'attitude apologétique. On voudrait aller plus loin que ce qu'on peut dire. Alors il ne faut pas. Parce que ça vous retombe sur les doigts après. Il vaut mieux être très strict dans ce domaine et comprendre que je ne peux pas affirmer plus. Mais je dois affirmer que l'âme spirituelle est sûrement créée très rapidement. Très rapidement. Mais est-ce que c'est le premier moment de la conception? Je le crois personnellement que ça doit être comme ça, surtout quand je regarde ce que la théologie me dit, et que la foi ne modifie pas le conditionnement humain, et que si la foi me le dit, il y a des chances que ce soit ça au point de vue philosophique, mais je dois dire qu'au point de vue philosophique, je ne peux pas aller plus loin. Alors on pourrait dire, ah, au point de vue philosophique, vous pouvez quand même aller plus loin. Parce que vous pouvez dire comment se fait le passage du premier moment de la conception à ce moment où les, premières cellules s'organisent. Il faut donc un principe qui les organise. Vous savez ce que saint Thomas disait et ce qu'Aristote disait, c'est que on peut à ce moment-là préciser, puisque la conception se fait à partir de deux vivants, il peut y avoir dans le sperme quelque chose qui joue le rôle instrumental pour organiser les premières cellules. C'est possible. C'est pas du tout impossible métaphysiquement. Donc, faisons attention dans cette affirmation. Je crois qu'il faut être là, attentif, ne pas aller trop loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a une intervention de l'acte créateur de Dieu et donc de la sagesse de Dieu pour toute âme spirituelle. Ça, la grande affirmation importante. Pour toute âme spirituelle, il y a une intervention directe. Donc je m'arrêterai ici pour vous montrer ce que nous avons fait. Nous avons essayé de faire ça. Voilà ce que nous avons fait. Tout ce qui reste, vous voyez, c'est tout ça. C'est quand même très important. Voir dans une lumière de sagesse ce qu'est l'intellect agent. Voir dans une lumière de sagesse ce que représente l'amour spirituel, voir dans une lumière spirituelle ce qu'est la toute-puissance et ce qu'est la plénitude de la béatitude en Dieu. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu.